n'est jamais écrit dans une élection. C'est une phrase qui a été beaucoup prononcée hier soir et c'est une phrase que l'on peut interroger parce que sur le papier, tout est écrit, hein, littéralement, depuis le nom sur le bulletin de vote jusqu'au résultat, en passant par le discours de victoire ou de défaite de chaque candidat. Et vous me direz, heureusement, sinon ce serait le chaos et l'improvisation. Tu parles d'une élection, mais plus sérieusement, rien n'est jamais écrit. Ça voudrait dire qu'il y a toujours une part de surprise. Autrement dit, qu'on peut encore y croire ou potentiellement se faire avoir. C'est la possibilité d'un coup de théâtre ou d'un vote caché, d'un sursaut que personne n'aurait pu déceler. Ça contribue, vous savez, à cette idée de l'élection comme un moment unique, décisif, déterminant de la vie démocratique, un moment où vous avez le pouvoir et où vous pouvez tout changer. Rien n'est jamais écrit. Est-ce que vous le pensez vraiment? Parce que c'est pas une certitude pour tout le monde. Hein. Il suffit de regarder le taux d'abstention des inscrits. Rien n'est jamais écrit. Quand on est face à un résultat qui est le même que la dernière fois, ben on n'y croit pas. Non seulement c'est écrit, c'est même réécrit. Noir sur blanc, sur le site du ministère de l'Intérieur, à la télévision, sur Twitter, s'affichent les mêmes noms et quelque chose me dit que c'est pas très bon pour maintenir cette croyance ou cette illusion que rien n'est jamais écrit dans une élection.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui observe autant qu'il écrit les romanciers et de son regard affûté, il traque les petites cruautés, les démences, les compromissions tapies au fond de chacun de nous. Il vient de publier le troisième volume de ses micro-fictions après 2007 et 2018. Voici 2022, 500 petites histoires fulgurantes, ancrées dans le présent et plus grinçantes que jamais. Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Au fond, pour vous, dans ce premier tour des élections, qu'est-ce qui était écrit? Après tout, vous êtes écrivain.
Bah, écrit, il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a toujours rien d'écrit, sauf cette peur, personnellement, que j'avais déjà en 2017, qu'on a eu en 2002. C'est toujours avec la même famille. Donc, c'est un peu lassant. Et en même temps, c'est une peur qui monte un peu pour ceux qui la ressentent, parce qu'on se rapproche. Voilà. Et là, effectivement, tout est possible. Moi, j'ai jamais douté qu'il était possible que tout arrive en politique, parce qu'au niveau d'une vie personnelle, j'ai pu constater, en ce qui me concerne, que tout pouvait arriver aussi.
Alors il a fallu écrire hier, parce que vous écrivez aussi pour la presse parfois. Qu'est-ce que vous avez écrit?
Bah, j'ai écrit, oui, pour le Nouvel Observateur, non, pour l'Obs. Bah, c'était un papier sur les élections. Alors ce qui était curieux, c'est que donc après les résultats, les premiers résultats, je suis allé écrire et donc j'ai coupé la télévision. J'aurais dû la laisser animer peut-être. Et quand je suis revenu vers 11h du soir, j'ai vu qu'en fait, l'élection tournait justement et que ça allait être Mélenchon qui peut-être serait au deuxième tour. Alors j'étais à la fois satisfait et à la fois je me suis dit il faut refaire le papier. Puis j'ai vaguement pensé à tous les journaux de France et de Navarre qui avaient déjà fait leur une, dont certains étaient déjà à l'imprimerie. Et je me suis dit que c'était vraiment un grand tracas.
Régis Geoffrey, qu'est-ce qui reste à écrire pour vous dans les 13 jours à venir?
Dans les 13 jours à venir, je continue à écrire ce que j'écris à titre personnel. Quand on me demande d'écrire un article, parfois je dis oui, mais j'ai pas l'impression que ma parole, honnêtement, c'est pas la fausse modestie et tel impact que je doive la prendre toujours.
Mais pour vous, dans la vie démocratique, pour la France, qu'est-ce qui reste à écrire?
Moi, ce que j'écris, j'ai l'impression que j'écris des livres extrêmement violents et extrêmement donc démocratiques. Je pense que le dernier livre, la microfiction 2022, c'est un livre d'une grande violence. C'est un livre qui traverse l'époque. C'est un livre où je parle parfois de gens qui ne parlent pas, qui n'ont pas accès à la parole. Et je pense que c'est le but d'un romancier, de parler d'autre chose que de lui-même.
Alors on va y revenir, évidemment, et longuement. Mais d'abord, il y a 5 ans, vous aviez participé à un ouvrage collectif qui réfléchissait à ce que c'était que la gauche. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la gauche? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la gauche?
La gauche, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ce que je sais, ce que ça veut dire, c'est l'extrême droite plutôt qui m'embête dans l'histoire, parce que jusqu'à présent, il y avait la droite libérale. Alors on avait une gauche libérale, une droite libérale. On était dans le même dans la même cour, et donc moi, ce qui m'effraie, c'est ce qu'il y a de l'autre côté, et pas tellement la personne qu'on a de l'autre côté, mais les gens qui sont derrière cette personne. En plus, il y a un autre problème qui se pose pour moi, c'est un problème de l'État, parce que quels sont les hommes et les femmes d'État derrière elle? Et ça, je ne les vois pas.
Je ressens, à vous entendre ce matin, une forme de lassitude. La campagne qui a précédé ce premier tour, vous l'avez allègrement commentée, Régis Geoffrey. Vous avez dit notamment qu'elle ne vous remplissait ni d'espérance, de joie ou d'enthousiasme. Comment ça se fait, ça?
C'est le moins qu'on puisse dire. Personne n'était très enthousiaste à l'idée de cette campagne. On pensait que les choses allaient être ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc ça avait un côté joué d'avance. Il n'y a pas matière à enthousiasme. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas matière à enthousiasme.
Alors qu'aurait-il fallu pour que espérance, joie et enthousiasme y aient ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a enthousiasme, mais pas du même côté. C'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à une élection lointaine que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître, en 2001, il y avait un enthousiasme délirant quand François Mitterrand a été élu, qui était à gauche.
En 81.
Et là, je pense que si l'adversaire de Macron est élu, il y aura un enthousiasme délirant, mais ce sera de l'autre côté. Voilà. Donc l'enthousiasme existe, mais ce sont pas les mêmes personnes qui sont enthousiastes.
Vous êtes allé voter pour autant, Régis
Geoffrey. J'ai voté, oui, tout à fait.
Vos personnages, pensez-vous qu'ils votent ? Après tout, vous les avez écrits.
Certains votent, certains ne votent pas sans doute. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un gros problème, et ça vous le voyez depuis longtemps, mais vous l'avez vu aussi pendant la pandémie, vous voyez tous les jours, c'est qu'il y a d'une part les gens qui parlent, et d'autre part les autres. Et pendant cette pandémie, c'était assez frappant. Ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas sur les plateaux, les gens qui n'ont pas la parole, les gens qui sont les plus démunis, qui sont à l'autre extrémité de l'échiquier de la société, on les voit dans les médias, on les entend, mais dans les reportages, on ne les voit pas sur les plateaux.
C'est ça que vous évoquez, l'abstention, qui correspond quand même à un quart des inscrits, Régis Geoffrey?
L'abstention m'évoque pas grand-chose en réalité, parce que l'abstention, je la vois partout. Elle n'est pas spécialement chez les uns ou chez les autres, dans une classe sociale.
Dans quelle France est-ce que vous avez l'impression de vivre, au fond, vous dont les textes dans Microfiction en dessinent un portrait en creux ?
J'ai pas cette impression de la France. J'ai pas d'impression de la France particulière. J'ai pas du tout l'impression que je vis dans une France particulière. J'ai l'impression que je vis dans un monde particulier. Je pense que la période qu'on vit ou la période qu'on a vécue est une période mondiale. Je pense pas du tout que qu'on soit chacun dans son coin. Et là, on le voit avec l'Ukraine. C'est-à-dire que cette façon de croire qu'on est dans une France, en réalité, c'est la France n'est pas une boîte. Définitivement, parce qu'elle est ouverte non pas sur l'Europe, aussi sur l'Europe qu'on en disait, on disait qu'on était européen, mais on voit bien que on va au-delà de l'Europe, puisqu'on va jusqu'à l'Ukraine, et que quand on tape l'Ukraine, c'est nous qui sommes frappés aussi.
Un climat d'avant-guerre, c'est le thème du texte que vous nous avez écrit, Régis Geoffrey, et une fois n'est pas coutume, j'aimerais que vous nous le lisiez maintenant, au début de l'émission.
Les nuits sont devenues plus nombreuses que les jours. Des nuits plus courtes, plus claires. Des nuits qui défilent comme des éclairs, des déflagrations, des nuits phosphorescentes qui explosent à la gueule, défigurent les enfants, mutilent les poupées, décapitent les ours en peluche. Le réel de partout clignote, infinité d'écrans, les parleurs, les langages, les mensonges. La compassion apeurée des lâches, des uns, des autres, des héros même, qui craindraient en relevant le défi de jeter l'Europe avec l'eau du bain. Et dans le lointain, les pleurs des mères dans tous les idiomes de l'univers. Les égos se bousculent sur les plateaux, la douleur montrée, décrite, commentée, à l'envi, jusqu'à ce que plus rien ne soit dit. Le printemps devient chaque jour plus étrange. C'est le même que l'an dernier, sans doute. Mais on se demande si ces journées ensoleillées ne sont pas les derniers feux d'un automne clandestin qui va déboucher sur un de ces interminables hivers quand, dans un bruit d'orage, tombe une neige barbare dont chaque flocon est une goutte du sang d'un humain sacrifié que la mort a cristallisé. Une neige qui recouvre peu à peu le paysage d'un permafrost rouge et purulent comme un massacre.
C'est un texte extrêmement sombre, Régis Jauffray. Un texte dont vous me disiez, en préparant cette émission, qu'il disait quelque chose d'un climat d'avant-guerre. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ben, je le ressens extrêmement, parce que moi, j'ai jamais connu vraiment la guerre mondiale, parce que je suis né après 45. Et là, j'ai une impression, justement, quand vous dites que tout est possible, ce qui paraissait impossible me paraît possible, parce que là, on en est quand même très proche. Il suffirait qu'il y ait une bombe qui soit un bombardement de la Pologne. Suffirait pour déclarer une guerre, en tout cas, sinon mondiale, du moins européenne, ce qui reviendrait pour nous à peu près au même.
Dans quelle mesure ce climat déteint-il sur votre écriture, imprègne-t-il votre écriture ? En quoi les histoires que vous racontez s'imprègnent-elles dans l'air de l'air du temps, Régis Jauffray ?
Je pense que je suis assez poreux à l'air du temps.
C'est une éponge.
Si vous voulez, mais surtout, j'ai jamais pensé, et c'est pas la fausse modestie, mais j'ai jamais pensé que mon histoire ou mes histoires soient très importantes. Donc, ça m'est arrivé de parler de moi, mais c'est assez rare. Et si vous voulez, c'est peu français, parce que les Français, ils sont toujours en train de raconter leurs histoires, et quelquefois, c'est extraordinaire, regardez mal Marcel Proust. Mais si vous voulez, on essaie toujours de retrouver l'auteur à travers les histoires. Alors, par exemple, dans Microfiction, il y a 500 histoires, c'est impossible d'être dans toutes les histoires, donc je n'y suis plus. Parce qu'à partir d'un moment, on s'envole, on est ailleurs. Et je pense que l'imaginaire, c'est comme une fusée qui peut vous enlever de l'attraction terrestre, enfin de votre attraction et de vous-même. Je pense qu'à un moment, la littérature peut parler d'autrui.
Celle qui est pleine d'histoires et qui étrangement ne pense qu'à elle dans cette émission, vous la connaissez Régis, c'est évidemment la culture et son actualité égotique. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 11 avril ?
Le Grand Prix est attribué à...
Cap à l'Est, la deuxième édition du festival du film policier de Reims s'est refermée ce week-end sur un palmarès qui fait la part belle aux films venus du Kazakhstan, de Russie ou de Chine, émaillés d'hommages classe et de masterclass chic, notamment de Walter Hill et Vincent Lindon. La manifestation a aussi décerné son grand prix et son prix de la critique au long-métrage Assaut du cinéaste kazakh Adilkhan Yerzhanov.
C'est de toute beauté.
Aller sans retour, le ministère de la Culture a tranché. Deux tableaux de la collection Morozov, exposés jusqu'à la semaine dernière à la Fondation Vuitton à Paris, vont rester en France. La première toile, qui appartient à une institution ukrainienne, sera conservée à la demande des autorités du pays jusqu'à ce que la situation permette son retour en sécurité. La seconde est la propriété d'un oligarque proche de Vladimir Poutine qui fait l'objet de sanctions internationales.
C'est votre livre préféré. Vous pensez encore que la vie est un roman ?
Le romancier libano-américain Rabbi Alameddine a remporté le prix Pen Faulkner de la fiction 2022, l'une des plus prestigieuses récompenses littéraires américaines, avec le Pulitzer et le National Book Award. Il a été récompensé pour son roman The Wrong End of the Telescope, une histoire de transition et de migration, dans lequel une médecin se rend sur l'île de Lesbos pour faire du bénévolat auprès des réfugiés, traduit par Nicolas Richard pour les éditions des Escales. Le livre sortira en France le 21 avril prochain sous le titre La Réfugiée. Et enfin, Hey Hey, Rise Up, c'est le titre d'un morceau inédit, événement que vient de révéler le groupe Pink Floyd. Après 28 ans de silence, la formation mythique de David Gilmour a composé cette chanson afin de récolter des fonds pour des œuvres humanitaires en soutien au peuple ukrainien. En plus des riffs de guitare hypnotiques qui ont fait la légende du groupe britannique, on entend sur ce morceau de 4 minutes la voix d'Andriev Kilvnuk, un chanteur ukrainien parti depuis se battre au front et blessé par un éclat de mortier. L'écrivain Régis Jauffray, invité de Boomerang ce matin pour parler de littérature quand même et revenir sur cette forme si singulière que vous pratiquez depuis 15 ans, à savoir la microfiction. Alors comment cette forme brève s'est-elle imposée à vous, dont vous dites que c'est vraiment l'essence de votre écriture en fait ?
C'est surtout l'essence, à mon avis, de l'écriture tout court. C'est-à-dire que je pense que c'est la forme la plus naturelle. Autant le roman, c'est quelque chose d'extrêmement élaboré, de peu naturel, de fou. Mais la microfiction, je pense que quelqu'un qui sait pas écrire et qui veut raconter une histoire, il va tomber à peu près sur ce genre de format.
C'est intéressant ce que vous dites sur de fou. Quand vous dites une forme de fou, le roman, vous le dites souvent, c'est quelque chose qui se rapproche, c'est une folie.
Je parlais surtout le genre lui-même du roman, oui, qui est une folie, oui. Oui, parce que c'est pas naturel d'écrire des centaines de pages. C'est quelque chose qui demande une certaine discipline intérieure. Et je pense que la microfiction, a priori non, mais sauf que moi j'ai une obsession du style et la perfection de la chose qui va en s'aggravant. Ce qui fait que moi je suis de plus en plus obsédé par cette espèce de bombe que doit être une phrase, cette espèce de coup de lame, si vous voulez. Et ce dont je m'aperçois, en fait, c'est que dans chaque histoire, je vais plus vite que dans les séries Netflix. Ce qui est quand même étonnant. J'arrive à mettre beaucoup plus d'événements dans une histoire que même dans 20 minutes de série.
Mais quelles contraintes, pour être très technique, est-ce que vous vous imposez ?
Je m'impose aucune contrainte, parce que justement c'est très naturel, et cette obsession formelle, je l'ai pour tout, je l'ai pour écrire un article, pour n'importe quoi, donc ça ne change rien. Non, c'est très naturel, pour moi c'est, il y a un côté en plus très rassurant, parce qu'en principe j'en écris une par jour quand j'écris les microfictions, c'est très rassurant, c'est comme un objet artisanal, voilà.
Vous parlez du roman et de la folie. Dans quelle mesure diriez-vous qu'écrire des romans, ça vous a rendu fou, Régis Geoffrey ?
Oh non, moi ça m'a pas rendu fou. D'ailleurs, j'ai pas l'impression d'être fou, contrairement à ce qu'on... pas aux apparences, mais ce qu'on pourrait penser peut-être. Non, ça m'a ni rendu fou, ni pas rendu fou. C'est-à-dire que je pense que dans la littérature, quand on parle de littérature, on tient des propos étranges qu'on ne tiendrait pas par rapport à un peintre. Par exemple, c'est-à-dire que par exemple, cette notion de souffrance dans l'art, qui historiquement on peut la dater, ça date de Flaubert, oui, et des romantiques, mais on l'a pas par rapport à un peintre, on demande pas à un peintre, est-ce que vous souffrez ? Et cette façon, par exemple, quand je dis que j'écris tous les jours, on a l'air de trouver, parfois, de trouver ça... bizarre, mais un peintre peint tous les jours.
Je pense que c'est lié peut-être à votre fascination pour les états limites, voire pour la folie. D'où est-ce que ça vient, ça ? Dans les histoires que vous racontez.
Mais moi, je cherche pas les états limites. Simplement, je suis un état limite parce que je suis bipolaire. Ça s'appelle aussi maniaco-dépressif. Je ne suis pas bipolaire à être enfermé, mais c'est un état intérieur. C'est un état intérieur que beaucoup d'écrivains sont bipolaires. Donc je suis habitué au soleil et à la pluie. Le matin, la pluie, le soleil, ça alterne toute la journée et toute ma vie. C'est quelque chose que je subis ou que je vis depuis l'âge de 15 ans. Et malgré tout, je me dis que je suis quand même arrivé à avoir une vie, à avoir des enfants, à écrire, à me lever le matin. Et c'est pas l'héroïsme, mais disons que c'est une sorte de discipline de vie, parce qu'on peut pas faire autrement.
Diriez-vous que cet état, cette condition que vous venez juste de décrire, est un catalyseur de fiction, d'histoire ?
Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que moi, ce qui a été une obligation pour moi à l'âge adulte, c'est d'avoir une sorte de discipline, parce que j'étais bien obligé, parce que c'est pareil si vous avez un problème de squelette, vous allez être obligé de marcher avec une canne, vous allez devoir faire attention. Et donc moi, c'est un peu cette rigueur qui m'a suivi, justement parce que cet état de bipolarité n'est pas tout à fait rigoureux lui-même.
Ce besoin archaïque, Régis Geoffrey, de lire ou d'entendre quelqu'un vous raconter des histoires, comment est-ce que vous l'expliquez, ça?
Je pense que c'est assez naturel aussi. C'est les minuit et nuit. Hein, il faut pas s'arrêter de raconter, autrement on vous coupe la tête. Moi, j'ai toujours eu cette impression-là. C'est-à-dire, si je descends de vélo, je pourrais plus remonter. C'est une écriture qui se déroule un peu à l'infini. C'est une écriture comme le fil que nouera la parque. C'est ce que je me souhaite. C'est-à-dire, je me souhaite de pouvoir écrire jusqu'à la toute fin de mes jours.
Alors, à vous entendre, ça touche tout le monde. Qu'est-ce que c'est, au fond, un écrivain pour vous ?
Oh, moi, pour moi, rien de particulier.
C'est ça.
Non, je pense qu'il y a un gros narcissisme en France de l'écrivain. Je sais pas pourquoi.
Vous dites parfois que c'est un acteur, l'écrivain.
Oui, moi, par contre, ça, c'est une impression que j'ai en écrivant et que j'aurai toujours. C'est-à-dire qu'on est quand même devant un public qui n'existe pas et il faut raconter quelque chose. J'ai toujours eu l'impression que c'est un acteur sur une scène, devant un public et qui n'a pas son texte.
Alors, écrire, c'est jouer.
Il y a ce côté-là, oui, bien sûr. C'est joué avec des perles de verre, c'est joué avec des mots, c'est joué, c'est pas joué. Si vous voulez, c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas. Je rapproche l'écriture d'un peu tout. Si vous voulez, on peut le rapprocher, par exemple, d'un sport. Si vous réfléchissez comment vous courez, vous n'allez pas courir. Moi, je réfléchis jamais à ce que je vais écrire ni comment je vais écrire. La seule chose que je sais, dont je suis sûr, c'est que pour écrire, il faut avoir une humilité totale quand on écrit. Après, ça n'a pas d'importance, mais quand on écrit, il faut avoir une humilité totale et avoir un sentiment d'impuissance et de penser qu'on a tout à jouer. Je pense que si on pense qu'on a déjà joué et que en réalité on a du talent et qu'on maîtrise ce qu'on va écrire, c'est là où les écrivains s'atteignent et où les perses se dispersent.
Alors on va continuer à jouer ensemble et à se raconter des histoires juste après Tracy Chapman, Telling Stories, sur l'album du même nom en 2000. Vous êtes sur France Inter avec Régis Geoffrey. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
On ne va pas se raconter d'histoire, on est quelque part entre Geoffrey de Peyrac et Geoffrey Soupe. Le cycliste, le mollet athlétique et aventurier, la carrure maillot jaune, le regard demoiselle en détresse, le sourire podium. Avec son pull camionneur ce matin, le romancier Régis Geoffrey, invité de Boomerang pour ses micro-fictions où se succèdent des personnages plus tristes, misérables, dépressifs, parfois infréquentables les uns que les autres, et dont les destins racontés à la première personne, c'est important, témoignent d'une réalité sociale très sombre, très violente, hein, vous le disiez. Ces hommes et ces femmes, qui sont-ils pour vous, Régis ?
Moi, c'est les gens qui me viennent à l'esprit, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a un gros problème actuellement. On a toujours su que, si vous voulez, que c'était les privilégiés qui s'exprimaient, parce que c'est la première richesse, c'est cette liberté d'expression, ne serait-ce que dans les médias. Mais c'est la première fois que je vois que les gens qui parlent dans les médias, je dirais qui pérorent, ne savent même pas qu'il y a d'autres gens qui existent. Alors, il y a quelque chose qui était très simple pendant ces histoires de confinement. Tous les soirs, quand le couvre-feu était à 20 chanteur. On avait des gens qui pleurnichaient sur les feuilles, les sites d'information, les chaînes d'information, en disant « Mon Dieu, que c'est malheureux, après 8 heures, on peut pas aller au restaurant. » Et au bout de 3 quarts d'heure, ils sortaient un sondage, ils disaient « Pourtant, il y a 65% des personnes qui sont pour. » Et ils s'apercevaient pas que tout le monde ne sortait pas le soir, n'allait pas au restaurant. Ils sont jamais promenés dans la France tout court, j'allais dire, et ils ont jamais vu que les portails étaient fermés à partir de 7 heures. Et j'ajouterai une chose aussi très simple, c'est qu'on vous parle de l'immigration des migrants, mais combien de ces personnes sont allées porte de la chapelle quand il y avait les migrants sur les voies de chemin de fer, avec les campements et ces gosses dans la boue? Là, ils auraient vu ces gens qui étaient hyper favorisés. On a des gens qui ne vont pas voir ce qu'il faut voir.
Alors, c'est très intéressant, hein, au regard de la façon dont vous écrivez, dire « je », justement, puisqu'on en parlait, dans ces micro-fictions, quel geste est-ce que c'est ?
Ben c'est le geste que dans notre société il faut s'imposer, et en même temps il y a que des jeux, c'est-à-dire que il y a de moins en moins de chances de pouvoir s'intégrer à un groupe. On est le groupe, c'est de plus en plus réduit, et c'est une personne, c'est éventuellement le couple. Et en même temps c'est à jeu qu'on demande des comptes, c'est-à-dire que les microfictions, je m'en suis aperçu longtemps après, c'est un peu comme des gens qui passeraient au tribunal, qui raconteraient ce qui leur est arrivé. Et dans ce qu'ils racontent, ils se donnent eux-mêmes, mais ils se présentent pas vraiment. C'est comme un témoignage, c'est un témoignage imaginaire, chaque microfiction.
Mais en l'occurrence, c'est vous qui écrivez, donc dire « je », parler, non pas à leur place, mais avec eux. Régis Geoffrey, est-ce que ce serait aussi un geste d'empathie ? Un geste de présence.
C'est un geste de profonde empathie humaine, parce que l'empathie, c'est l'humanité même. Je pense que surtout, il y a beaucoup de gens qui sont tellement esthétiques, tellement délicieux, tellement raffinés. On se demande pourquoi d'ailleurs, et qui pensent que la littérature, la phrase, ne doit pas approcher certains sujets de la société, qui sont traités par exemple avec de la vidéo. Alors la vidéo, vous avez la vitre de l'écran, et je pense que finalement, la syntaxe, le vocabulaire peut donner aussi la parole à des gens.
Justement, j'aimerais qu'on se plonge un peu dans l'univers qui est le vôtre. Parmi les 500 microfictions que vous nous racontez dans votre livre, j'en ai choisi une, qui est l'une de mes préférées, qui s'appelle « Cendres mêlées, distribuées aux familles ». Si vous voulez bien vous donner la peine de le lire.
Quand je suis rentré de la fac, les meubles avaient été bousculés et les fenêtres étaient grandes ouvertes sur la pluie glacée. La gardienne est montée. Ce matin, maman avait appelé les pompiers. Ils avaient surgi dans l'immeuble comme des guerriers. Tandis qu'il l'a déposée sur un brancard, il lui avait demandé de tout ouvrir pour changer l'air pourri qui régnait dans les pièces. Elle m'a dit regretter la pénurie de masques qui nous obligeait à respirer l'atmosphère toute crue. Ils l'ont descendue au trot par l'escalier. Ils ont démarré violemment, sans prêter attention au chat des Barlow qui traversait la rue. Monsieur Barlow l'enterrera demain au cimetière des chiens d'Anières. Elle ne savait pas où maman avait été transportée. Je l'ai appelée en vain à l'hôpital de Pontoise. Je me suis déplacé. J'ai réussi à me faufiler à l'intérieur. D'après le type qui m'a renseigné, son nom ne figurait pas dans la base de données. Mais depuis quelques jours, on hospitalisait trop de gens à la fois pour avoir le temps de suivre scrupuleusement la procédure. Il m'a conseillé de tenter ma chance à l'AENEC, car on expédiait les malades dans toute la région parisienne. Il m'a dit de ne pas traîner, j'encombrais. En outre, avec l'essaim de malades haletants dont les locaux étaient pleins, il ne donnait pas cher de ma peau. Il s'était bricolé un masque avec de la gaze et du sparadrap. C'est mieux que rien. Maman m'a appelé à 20h de l'hôpital Cochin. L'infirmier a pris tout de suite l'appareil pour dire qu'elle ne pouvait me parler plus longtemps et que les visites étaient interdites. On affirmait aux infos que les Américains rachetaient à bon prix les chargements de masques destinés à la France. Le président répéta dans un tweet qu'il ne servait à rien si on toussait dans son coude. On m'a rendu maman 5 jours plus tard. Elle avait dû mourir peu après son appel. Une urne cylindrique dans un emballage en papier Kraft que la gardienne avait déposé subrepticement sur le paillasson. Un policier en uniforme l'avait apporté à la loge. Il lui avait fait signer un bordereau sans un mot. Dans l'affolement général, on avait même envoyé des urnes par la poste quand les employés des crématoires débordés n'avaient pas mal interprété une circulaire ministérielle et dispersé au vent des centaines de défunts en poussière. On raconta aussi que pour venir à bout de la pléthore, nombre de cercueils avaient été vidés, les corps entassés dans les fours, les cendres mêlées, distribuées aux familles. Il fallut quelques semaines à l'administration pour recouvrer ses esprits. Voilà pourquoi ma mère est partie, sans que je puisse lui tenir la main.
Au fond, de quoi se nourrit l'écrivain ? Régis Geoffrey, l'écrivain que vous êtes.
Je me suis jamais posé la question parce que j'ai pas l'impression que l'artiste soit nourri différemment que la population générale. Je pense que les artistes ressentent la même chose que les autres. Peut-être qu'il y a la dimension de l'ennui qui peut dans la jeunesse avoir une répercussion, parce que quand on est artiste, on n'est pas passionné par la vie des autres. Je veux dire, donc ça peut donner lieu à des moments où on est dans les spectatives. On est un peu dans l'expectative de la vie. Moi, je dirais que personnellement, j'attends toujours des choses extraordinaires de la vie. J'attends toujours le bonheur le plus extrême demain, c'est-à-dire que quand on me demande quelle est la période de ma vie que je préfère, je dis toujours c'est aujourd'hui, parce que les merveilles arriveront demain.
C'est une belle façon pour conclure cette émission. Merci infiniment Régis Geoffrey d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Microfiction 2022, votre nouveau livre vient de paraître chez Gallimard. C'est aussi grinçant que cruel, c'est aussi souvent très émouvant, et on l'a entendu ce matin tout de suite, les médias, Sonia De Villers. Et son Instant M, qui nous parlera de Jonathan Ayoun. Ce matin est un très beau documentaire, c'est juste après ça. Bertrand Belin, il est 9h40 sur France Inter et c'est l'heure de l'Instant